Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde, bonsoir, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Bienvenue. Ah non, il y a des reflets sur le chat, attends. Voilà, c'est mieux. Hop. Zou. Bonsoir tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va? Incroyable. Bonjour. Content de vous retrouver. Bon, je suis désolé, j'étais pas à Paris, j'étais dans le train quand ça s'est passé. J'étais en train de rentrer chez WAM, etc. Machin. Bon, de toute façon, on le savait. Mais voilà, c'est bon. Je suis de retour chez moi depuis à peu près 5 minutes. Et donc, live direct pour discuter avec vous de l'engagement par le gouvernement de Michel Barnier de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le gouvernement qui engage sa responsabilité sur le retour à l'Assemblée nationale du texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale après une commission mixte paritaire conclusive. On s'en branle de tous ces détails. Ce qui compte, c'est que le gouvernement ouvre la possibilité pour les oppositions de déposer, débattre et éventuellement voter une motion de censure. Et la gauche jubile ce soir, puisque, à son grand soulagement, le Rassemblement national va voter sa motion de censure. C'est beau, c'est beau. C'est beau, une gauche qui gagne grâce à l'extrême droite, c'est beau. On va lire le texte de la motion de censure qui a été déposée, parce qu'elle a déjà été déposée. Hein. Les mecs, ils n'ont pas attendu. Hein. Ils ont fait non, non, vas-y, on envoie direct. Hein. Pas compliqué. Hein. C'est confirmé du coup. Bah écoute, les représentants du Rassemblement national ont annoncé qu'ils voteraient la motion de censure. Alors on suppose qu'ils vont voter la motion de censure de la gauche, puisque la gauche a déposé une motion de censure en premier et que c'est donc celle-ci qui va être examinée. On le sait ça, on le sait que l'extrême droite s'en fout pas mal du texte de la motion de censure. Ce qui compte, c'est le dispositif et sa conséquence. C'est pour ça que l'extrême droite n'a jamais eu de problème à voter les motions de censure de la gauche. Alors que la gauche, elle, de son côté, elle n'a pas très envie de voter les motions de censure de l'extrême droite. Donc voilà quoi. Est-ce que tu penses que le RN peut changer d'avis en cas de nouvelle concession de Barnier? C'est possible. C'est possible. Peut-être que Marine Le Pen fait monter la pression jusqu'à mercredi. C'est quand le vote? Le vote, ce sera a priori mercredi. En cas de 49-3, les groupes d'opposition ont 24 heures pour déposer une motion de censure. Et lorsqu'une motion de censure est déposée, elle doit être examinée dans les 48 heures, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà quoi. Avec Hassan CF, tout est possible de toute façon. Exactement, exactement. Absolument, tout à fait. Hop. Barnier ne peut plus faire de changement sur le texte de toute façon, donc c'est fini pour les concessions. C'est toujours discutable. On peut toujours faire un budget rectificatif en début d'année. Alors franchement, si c'est que ça, t'inquiète, on trouvera le véhicule. Mais oui, t'as raison. Techniquement, le gouvernement engage sa responsabilité sur une version du texte. Donc c'est cette version du texte-là qui sera adoptée si d'aventure aucune motion de censure n'était adoptée. Est-ce que tu peux faire un résumé, s'il te plaît, Jean? Bah écoute, le résumé, il est somme toute assez simple. En France, il y a deux textes budgétaires qui sont négociés chaque année. Il y a le budget de l'État et il y a le budget de la sécurité sociale. On s'en fout pas mal de l'ordre dans lequel on le vote, etc. Ce qui compte, c'est que là, le budget de la sécurité sociale, il retourne à l'Assemblée nationale et il doit être adopté par l'Assemblée nationale. Sauf qu'il n'y a pas de majorité pour adopter ce texte-là, semble-t-il, puisque les élus du Rassemblement national ont demandé un certain nombre de concessions à Michel Barnier. Michel Barnier qui leur a accordé un certain nombre de choses jusqu'à ces dernières heures. Mais rien n'y est fait, et pour ne pas risquer le rejet du texte, et qu'on se retrouve sans budget de la Sécu, le gouvernement de Michel Barnier s'est retrouvé contraint et forcé d'engager sa responsabilité, comme on dit, ça veut dire d'utiliser l'article 49.3. L'article 49.3 a été dégainé cet après-midi par Michel Barnier. La procédure est donc la suivante. Dans les 24 heures qui viennent, il faut qu'il y ait un dépôt de motion de censure. C'est déjà fait. Et dans les jours qui suivent, on doit débattre et voter sur cette motion de censure. La suite du programme est la suivante. Si jamais aucune motion de censure n'est adoptée, c'est possible, hein. Et ben le texte de loi est adopté. On a un budget pour la Sécu. Tout va bien. Alors, tout va pas bien parce que derrière il y a le budget de l'État qui va revenir aussi. On verra. Mais si par contre la motion de censure est adoptée, ce qui risque fort d'arriver, alors le gouvernement de Michel Barnier sera contraint à la démission. Et ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste faire qu'on va retourner là où on était l'été dernier. C'est-à-dire, on n'a pas de gouvernement. On n'a pas de gouvernement, on n'arrive pas à en former un. Qu'est-ce qui empêche de reconduire presque le même gouvernement après une motion de censure? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un gouvernement sans assemblée, ça ne fait rien. C'est ça qu'on appelle un gouvernement technique. C'est un gouvernement qui ne peut pas engager de nouvelles réformes, qui n'a pas les moyens politiques des ambitions qu'il pourrait éventuellement avoir. Qu'est-ce que ça fait de renvoyer le même gouvernement devant une assemblée qui vient de le censurer? Bah, il est juste sûr et certain de rien pouvoir faire, ce gouvernement. C'est pas un gouvernement en réalité, c'est des gens qui juste ils restent dans leur ministère et puis ils attendent en fait, parce qu'ils peuvent rien faire, ils n'ont pas d'initiative. Ils peuvent faire des textes de gestion d'affaires courantes, etc. S'il y a des incendies, des trucs comme ça, ils peuvent prendre des décisions, mais fondamentalement, le gouvernement peut rien faire. C'est un peu, si tu veux, de manière un peu caricaturale, c'est comme si t'es licencié et mis à pied de ton poste et tu retournes au bureau le lendemain. Bah non, en fait, t'es viré, t'as été viré hier. Enfin, je veux dire, tu peux revenir t'asseoir derrière ton bureau, mais en fait, on va rien te laisser faire. On va plus te donner accès au log de l'entreprise, tu vas plus pouvoir participer aux réunions. Enfin, tu vois, c'est un peu absurde. Bah, c'est un peu la même situation, quoi. Un gouvernement démissionnaire, gouvernement démissionnaire, hein, voilà. Gouvernement démissionnaire, bon, bah voilà, il est plus gouvernement, enfin. Il fait ce qu'a fait le gouvernement Attal pendant quelques semaines. C'est-à-dire qu'il chauffe la place et il attend. Mais j'ai l'impression que peu importe le gouvernement qu'il y aura, il n'y a pas d'assemblée. C'est Emmanuel Macron qui est dans le chat. Mais oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Ce que tu résumes en un message tout le problème d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je fais, moi, avec tout ce merdier là? Comment qu'on fait? Je peux pas, moi. Déjà, Michel Barnier, c'était pas facile, hein. Le mec, il a une majorité relative de 220 députés, pas énorme. Heureusement, il y avait le RN qui disait, ouais, vas-y, au nom de la stabilité des institutions, on va pas censurer. Heureusement, ce qui a permis de survivre quelques mois, mais. C'est quand la date pour redissoudre? Alors oui, c'est vrai, il y a une particularité aussi, c'est que il y a déjà eu une dissolution en juin dernier, vous vous en souvenez, puisque vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez bien raison. Il peut pas y avoir de nouvelle dissolution dans l'année qui suit. Et là, on est au cours de cette année-là. Donc il ne peut pas y avoir de dissolution. Emmanuel Macron n'a pas sa carte en main de la dissolution. Il peut pas. Il est obligé d'attendre un an, donc jusqu'à juin prochain, par définition. Donc voilà, donc tu as la date, c'est juin prochain. Est-ce que l'Assemblée pourrait s'auto-dissoudre? Non, elle n'en a pas le pouvoir. Le RN s'est prononcé sur la censure ou pas encore? Oui, le RN s'est prononcé et le RN a déclaré qu'il censurerait le gouvernement de Michel Barnier. Ils vont voter la censure. Qu'est-ce qui se passe si le budget 2025 n'est pas voté? Alors là, on rentre dans des eaux troubles. On rentre dans des eaux troubles et dans des eaux rares. En même temps, j'ai envie de dire, on est déjà dans des eaux rares depuis la tripartition de l'Assemblée en juin dernier. Qu'est-ce qui se passe si le budget n'est pas voté? Il existe des techniques qui permettent d'éviter des shutdowns, notamment le recours à des ordonnances, la possibilité pour le gouvernement d'engager des crédits de dépenses sans autorisation avec une reconduction du budget de l'année précédente. Ça existe, mais c'est, comment dire, c'est temporaire comme situation. On peut se retrouver dans une situation grave. Ce qui peut y avoir aussi comme problème, et ça, c'est un certain nombre de personnes proches du gouvernement qui dénoncent le risque que ça fait courir pour la France, c'est que nos créanciers voient ça d'un mauvais œil. Les gens à qui on emprunte de l'argent tous les jours, car oui, on emprunte de l'argent tous les jours, ils peuvent commencer à se dire, dis donc, la France, on vous aime bien, mais là, c'est quand même très incertain ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de stabilité, on ne sait pas où ça va, est-ce que tout ça sera financé, comment est-ce que vous avez l'intention de nous le rembourser l'argent qu'on vous prête? Et on peut donc se retrouver face à une augmentation des taux d'intérêt auxquels on emprunte de l'argent. Le drame ultime étant la crise de la dette souveraine. C'est déjà passé en 2008 pour un certain nombre de pays européens, dont la France, où là, ça s'envole carrément et plus personne n'a confiance en plus personne. Et là, c'est grave. Nos taux d'intérêt ont été ponctuellement plus hauts que la Grèce. Ouais. Bah, là déjà, oui, là déjà, ce qu'on appelle les marchés financiers. Alors les marchés financiers, c'est toujours un grand mot. Tu vois, les mecs, on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de visage et tout. C'est simplement des établissements de crédit. Hein. C'est simplement des gens dont le boulot est de prêter de l'argent à des personnes qui en demandent. Et ils estiment la solidité de l'emprunteur en fonction d'un certain nombre de critères, dont la stabilité gouvernementale et institutionnelle, quoi. Donc on verra quoi. On verra si ça se produit, on verra si le budget est rejeté. On verra. Les taux d'intérêt de la Grèce sont largement revenus à la normale par rapport à 2008. Faut arrêter de psychoter. Oui, bien sûr. Ah bah évidemment, oui, bien sûr. Bah, la Grèce, maintenant, il y a une stabilité, etc. Il y a eu quand même des réformes assez importantes qui ont été menées justement en 2008. En Grèce, qui lui permettent aujourd'hui effectivement d'emprunter de l'argent à des taux qui ressemblent à quelque chose, quoi. La France, pour ceux qui ne le savent pas, la France fait partie des très bons élèves. Dans le marché des dettes souveraines, la dette française, c'est une dette qui est assez sûre. Les marchés financiers savent que la France, elle a ce qu'on appelle une signature qui a une valeur assez importante. La France, quand elle t'emprunte de l'argent, elle te le rend. Il n'y a pas de. Non, mais en fait, c'est compliqué, on a changé de gouvernement, alors tu comprends. Et puis en fait, révolution. Et puis en fait, dictature. Et puis en fait, machin, junte militaire. Et puis voilà. Bon. Il y a des pays qui, malheureusement, qui ont une très mauvaise note dans les instituts de notation parce que bah parce que c'est pas sûr du tout. Hein. Franchement, tu leur prêtes du pognon, t'es vraiment pas sûr de le retrouver. Hein. Si le RN propose leur propre motion de censure et choisit de voter la leur et refuser celle du NFP, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais de mémoire, on n'examine qu'une seule motion de censure. C'était une question qui s'était posée, je me souviens, au début, la première fois, avec Elisabeth Borne, parce que typiquement, ça, c'est un truc assez intéressant. Nos institutions, elles ont été pensées pour fonctionner d'une certaine manière. Nos institutions, elles ont été pensées pour avoir une majorité et une opposition, minoritaire par définition. Donc la question de savoir est-ce qu'on peut déposer plusieurs motions de censure, c'est jamais posé. Il n'y a aucun constitutionnaliste en 58 qui s'est dit « Ah mais attends, qu'est-ce qu'on fait si jamais les oppositions elles sont divisées entre d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté la gauche ?» Donc, comme ça s'est jamais présenté, on s'est jamais... Voilà. Et puis un jour, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait deux motions de censure à examiner. Et bien laquelle des deux on choisit? Parce que les textes, ils prévoient qu'on n'en examine qu'une seule. Pas deux, il n'y a pas deux votes, hein, il n'y en a qu'un. Et bien du coup, d'un seul coup, on s'est posé une question que personne ne s'était jamais pensée. Il a fallu arbitrer. Je me souviens plus à l'époque de l'arbitrage qui avait été rendu, mais je crois que c'est la première qui est déposée. Hein. Ah, tirage au sort, vous avez raison. Attends, on n'est pas en train de confondre avec les motions de rejet? Excusez-nous, hein, c'est de la tambouille de l'Assemblée. On n'est pas en train de confondre avec les motions de rejet. Ou pareil, c'était posé la même question. S'il y a deux motions de rejet, on examine laquelle? Vraiment, c'est le genre de truc. Mais c'est trop drôle parce que moi, quand j'étais étudiant en droit constitutionnel, tu m'aurais posé cette question-là à l'examen, je ne savais pas y répondre. Je dis, moi, je sais pas. C'est pas prévu. Ça a jamais été prévu. Enfin, pourquoi il y en aurait deux? C'est débile. Il n'y aura jamais deux oppositions. Vous êtes con ou quoi? Ça va? Eh, oh, ouais. Eh, 70 ans de 5e République, je connais. Hein. T'inquiète. J'ai regardé les premiers ministres et tout, je connais. Bon, bah voilà, comme quoi, peut y avoir des trucs surprenants. Il y en a eu deux pour Borne, si je me rappelle bien. Mais il y en a eu deux au même moment, parce que Borne, elle a fait plusieurs 49-3, hein, je vous rappelle. Borne, elle a utilisé le 49-3 à plusieurs reprises. Donc peut-être qu'il y en avait eu un moment, c'était celle du RN, un autre moment, c'était celle du NFP. De la NUPES, pardon. À l'époque, ça s'appelait NUPES. Ils ont rename. Pas grave. En 2022, ils ont voté deux fois de suite à la réforme de la retraite les motions de censure. Ok, le même jour, il y a eu deux motions de censure examinées. Eh bien, il pourrait se repasser la même chose là. Il pourrait se repasser la même chose alors. Je vous avoue que je me souviens plus bien. Mais c'est possible, hein, c'est possible que, ok, deux motions de censure examinées le même jour. Ils n'avaient pas fait une discussion commune? Parce que je me souviens qu'on avait fait un stream, ça c'est sûr. Et du coup, les députés étaient montés à la tribune pour défendre leur position. Et ensuite, on avait voté sur les deux motions de censure. On avait fait deux votes, mais pas deux débats. Genre, le débat, c'est bon, on le fait une fois, c'est bon. C'est bon, ça va. Voilà. Tu montes, tu dis ce que t'en penses et tu dégages. Enfin, tu vas pas, on va pas s'amuser à repasser tous derrière le micro pour redire ce qu'on en pense. Allez, on regarde la VOD. Alors, la motion de censure, qu'est-ce que c'est qu'une motion de censure? Qu'est-ce que c'est qu'une motion de censure? Une motion de censure, c'est un texte à la con. Mais vraiment, hein, c'est pas un, c'est un texte écrit sur Word par des petits malins qui savent écrire des trucs, qui consiste à dire voilà pourquoi on veut censurer le gouvernement. Quand je dis que c'est un texte à la con, c'est qu'il n'y a pas un dispositif dedans légistique. On essaie, enfin, quand on écrit la loi, c'est précis, les mots qu'on utilise et tout, il y a des débats importants, rappelez-vous l'IVG dans la Constitution. Voilà. Motion de censure, on s'en fout. Motion de censure, t'écris un texte, ça peut être une page, deux pages, 20 pages, on s'en branle. C'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est les raisons pour lesquelles tu veux censurer le gouvernement. La motion de censure de la gauche est donc la suivante, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébaudis. Attends, il faut que je vire ça. Voilà. Ah, merde, non, attendez. J'ai pas le bon. Voilà, c'est plus mieux. Motion de censure présentée par Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écolo, et André Chassaigne, président du groupe communiste et and Friends, et 181 de leurs collègues. Il y a littéralement l'ensemble des députés du nouveau Front populaire qui ont signé la motion de censure, qui s'engage donc à la voter par définition. Le Premier ministre, sans majorité à l'Assemblée nationale, a choisi de recourir aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour imposer le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et ainsi forcer l'adoption du budget d'austérité qui affaiblira gravement notre protection sociale. À n'en pas douter, si ce gouvernement minoritaire n'est pas censuré dès maintenant, il continuera à imposer sa politique austéritaire en usant à nouveau du 49-3 sur les projets de loi de finances de fin de gestion, oui c'est vrai, pour 2024 et sur le projet de loi de finances pour 2025. Le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024, je crois que c'est le projet de loi de règlement. C'est pas un projet de loi très important, mais whatever. La diminution de plus de 62 milliards d'euros par an des recettes de l'État depuis l'élection d'Emmanuel Macron au profit des très grandes entreprises et des contribuables les plus fortunés a alimenté un déficit budgétaire record. Michel Barnier poursuit le dogmatisme des soutiens d'Emmanuel Macron qui refuse toute mesure de justice sociale. Michel Barnier fait donc le choix de l'austérité qui fait porter un risque important de récession ainsi que sur le front de l'emploi. De fait, les plans sociaux se multiplient et l'OFCE prévoit près de 150 000 suppressions d'emplois en 2025. Ceux qui ont envoyé le pays dans le mur demandent aujourd'hui aux Françaises et aux Français de payer la facture. Taxation des retraités par la désindexation partielle et différée des pensions de retraite, taxation des patients par la hausse du reste à charge sur les soins, taxation des apprentis, taxation du système de santé par 600 millions d'euros de coupes budgétaires supplémentaires. La réforme du barème des exonérations de cotisations sociales est réduite à peau de chagrin après avoir été sabordée par les députés du socle commun, entre guillemets, donc la courte majorité de Michel Barnier, pourtant censée soutenir le gouvernement Barnier. S'il était mis en œuvre, ce budget de la sécurité sociale aggraverait les difficultés que vivent les Françaises et les Français au quotidien. Fermeture des services d'urgence, pénurie de médicaments essentiels, désertification médicale, hausse du renoncement aux soins pour des raisons financières, EHPAD et hôpitaux publics à bout de souffle, dérive de la marchandisation du secteur des crèches. Le gouvernement et les députés qui le soutiennent sont restés obtus et dans la défense acharnée d'une politique pourtant sanctionnée dans les urnes. L'adoption d'amendements des groupes du Nouveau Front Populaire lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale a démontré qu'il était possible de trouver les ressources pour répondre aux besoins sociaux et de santé. Ce sont près de 17 milliards d'euros de recettes supplémentaires prélevées sur les plus riches qui ont été adoptées. Ça, ce sont les amendements adoptés par le NFP, hein, pendant la discussion. Soit le montant du déficit des régimes obligatoires de la sécurité sociale prévus par le gouvernement pour l'année 2025. À aucun moment, le gouvernement n'a pris en compte les votes de l'Assemblée et ouvert le chemin de la discussion. Il a balayé les amendements des groupes du Nouveau Front Populaire. Alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol et est une mesure essentielle pour tous de santé publique. J'adore ce paragraphe pour une raison très simple. C'est que quand tu veux que ta notion de censure elle soit votée par d'autres députés que les tiens, en général, t'essayes de mettre un peu les formes dans le texte pour amadouer un peu en mode « vas-y, c'est bon, j'écris un texte un peu large et générique, j'en fais pas des caisses, comme ça il est votable, personne ne se reniera en le votant ». Il y a rien dedans de machin et tout. Là, les députés du NFP, comme ils savent très bien que le RN, ils vont la voter, ils ont dit, bah, tu sais quoi, on va charger le RN comme des porcs, on va leur éclater la tronche dans un paragraphe. Dit, vas-y, votez ça, les fachos. Voilà, on vous le met, hein, c'est écrit. Hein. Vous êtes des fachos. Voilà, c'est du troll. L'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution est le résultat du choix d'Emmanuel Macron de désigner un Premier ministre ne détenant qu'un très faible soutien dans l'hémicycle et dans le pays et qui ne cherche à se maintenir au-delà de ses divisions que par la recherche d'un accord désormais clair avec le Rassemblement National. Il y en a un petit peu plus, je te le mets quand même. C'est avec gravité et responsabilité que la gauche présente aujourd'hui cette motion de censure, car elle ne s'est jamais située du côté de l'instabilité et du chaos. Mais l'absence de dialogue, le mépris pour les propositions formulées et pour le travail parlementaire rendent la censure nécessaire. Pour ces raisons, conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et aux articles 153 et suivants du règlement de l'Assemblée nationale, nous, députés et députées, déposons la présente motion de censure qui sera lue par le streamer Jean Massier en live. Voilà la motion de censure déposée par les députés du Nouveau Front Populaire qui l'ont tous signée. Le Nouveau Front Populaire montre son unité dans cette motion de censure. Et maintenant, charge à Marine Le Pen de la voter. Elle a d'ores et déjà dit qu'elle le ferait. Est-ce que le RN a déposé une motion de censure aussi ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Lidadidadoum. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu passer ? Une motion de censure RN ? J'ai pas vu, moi. Hein. Le groupe RN, dans un tweet, a annoncé qu'ils voteront la censure, mais sans préciser laquelle. Il n'y a pas d'issue pour un gouvernement qui renoue le fil du macronisme, qui refuse de prendre en compte l'urgence sociale de la fin du mois et qui ignore la nécessité de relancer la croissance, a ajouté Jordan Bardella sur X. En l'état actuel des choses, ils ont jusqu'à demain, 15h, 16h. Ils vont attendre la dernière minute. Peut-être. Hein. Selon LCP, ils l'ont déposé. Ah ! Il y a une motion de censure qui a été déposée par le RN et les ciotistes. Si c'est LCP qui le dit, ça devrait être vrai. Hop. Quand est-ce que ce sera voté ? Normalement, mercredi. Si on lit la Constitution... Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Si on lit la Constitution, article 49.3... Non, c'est article 49. « Dans le cas prévu de l'alinéa, un député peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session. D'accord, le Premier ministre peut, après délibération, en Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur un projet de loi de finances. Dans ce cas, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Voilà. 48 heures après le dépôt de la motion. Vote de la motion. Il se passera quoi après la motion de censure si elle passe ? Si la motion de censure passe, le Premier ministre remet sa démission au président de la République, qui peut l'accepter ou la refuser. Mais dans les deux cas, je vous rappelle que le principe d'une motion de censure, c'est que le Premier ministre n'a absolument plus les moyens de gouverner. Encore que... Et donc, on se retrouve dans la même situation que l'été dernier. Pas de Premier ministre, le mercato, qui sait qui va être Premier ministre, quelle option on peut imaginer, Lucie Castet, pas Lucie Castet, Bernard Cazeneuve, je sais pas moi. Et cette fois-ci, la crédibilité de l'article 16. Alors, l'article 16 de la Constitution, c'est un article qui fait beaucoup fantasmer, c'est normal. L'article 16 de la Constitution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un article dit des pouvoirs exceptionnels. C'est un article assez mal écrit qui prévoit que, quand les circonstances l'imposent, le président de la République peut prendre toutes les décisions qui s'imposent. Je voulais résumer de manière un peu vulgaire. Mais c'est pas loin d'être ça. C'est un article qui prévoit que le président de la République peut prendre des décisions en cas de crise majeure, des décisions qui ont vocation à permettre au pouvoir public constitutionnel de fonctionner normalement. L'article 49, c'est un article qui a été écrit avec à l'esprit des exemples. Et il y en a deux, des exemples. De moment où l'article 49, où l'article 16 aurait pu être utile. Le premier, c'est la débâcle de 1940. La débâcle de 1940, c'est un moment de crise gravissime, au sens physique du terme. Enfin, les nazis sont à 2 heures de Paris, quoi. Enfin, voilà, on n'est plus du tout dans des histoires de budget, de je sais pas quoi, de coalition et tout. La France est envahie militairement par un ennemi, avec des chars et des avions et des bombes. On est dans un moment où l'indépendance de la nation est en cause, l'intégrité de son territoire clairement. L'armée était en déroute. Faut se rappeler quand même de l'état dans lequel était le pays en juillet 40. C'est-à-dire les Français étaient sur les routes au sens premier du terme. Les Français étaient physiquement sur les routes avec des charrettes et tout, en train de les tirer à bras pour se barrer, pour fuir les nazis, quoi. Donc ça c'est le genre de crise où on pense à ça. L'autre crise, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, où il s'est passé un certain nombre de choses graves sur le territoire algérien, qui était encore un territoire français à l'époque, avec des attentats, avec des luttes armées, etc., des guérillas. Et donc c'est aussi dans cet esprit-là que l'article 16 a été écrit. D'ailleurs, l'article 16 a été utilisé une seule fois de toute l'histoire. C'est justement en 1961 en Algérie. Voilà, vous vous rappelez peut-être de vos cours d'histoire. En 61, en Algérie, il s'est passé un truc, c'était le putsch des généraux. Il y a 4 généraux de l'armée qui se sont rebellés contre le général de Gaulle, qui ont pris les armes physiquement avec leur bataillon de soldats, là, et qui ont pris le pouvoir. Et qui ont menacé de envahir Paris. Enfin, je veux dire, les mecs, ils avaient des plans pour larguer des parachutistes à Paris pour prendre les lieux de pouvoir. Ils avaient prévu d'envoyer des bataillons Assemblée nationale, Élysée, Matignon, enfin voilà. Ambiance. Ambiance. C'était pas l'OAS, non, ils étaient proches de l'OAS évidemment, enfin c'était des partisans de l'Algérie française. L'OAS c'était la lutte armée pour l'Algérie française, eux c'était des militaires. Voilà. Et donc voilà, l'article 16 a été utilisé par le général de Gaulle à ce moment-là, pendant quelques semaines, et c'était spécifiquement en Algérie que ça a été utilisé pour ramener les militaires dans les casernes et traduire les généraux en justice. Dans les deux cas, 1940-1961, il faut bien se mettre dans le crâne qu'on est dans des crises d'ordre armé, militaire, avec des fusils. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans des problèmes d'ordre budgétaire, difficultés de l'Assemblée nationale, etc., machin. L'esprit de l'article 16, d'ailleurs c'est pas que l'esprit, c'est aussi la lettre, hein, l'article 16 prévoit que l'article 16 est engagé dès lors que les pouvoirs publics constitutionnels, je sais pas moi, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Élysée, Matignon, enfin je sais pas, les pouvoirs publics sont empêchés de fonctionner, normalement, habituellement. C'était pas utilisé pour les émeutes de 2005, pas du tout, c'était l'état d'urgence, ça. C'est autre chose. L'état d'urgence, c'est pas un régime militaire, hein, c'est un régime civil. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, pourquoi je pense qu'il y a peu de chances que l'article 16 soit utilisé pour faire face à une crise politique, au sens de régime. Et encore, quand j'ai crise politique, pour l'instant, le problème, il est à l'Assemblée. Je veux dire, il est limité au 7e arrondissement de Paris. S'il y avait 3 millions de manifestants dans les rues, dont une grande majorité avec des armes à feu, je ne vous dirais pas la même chose. Là, on serait peut-être effectivement dans une situation de crise, d'ordre, de mise en danger. Il faut imaginer, je ne sais pas moi, imaginer que la police n'arrive pas à tenir Paris et que les députés ne peuvent plus se rendre physiquement à l'Assemblée. Là, il y a un problème. Là, on a un problème institutionnel. Les députés ne peuvent plus travailler. Donc voilà pourquoi moi j'y crois pas. L'article 16, c'est pas voilà. D'ailleurs, d'un certain point de vue, est-ce qu'on peut dire que les pouvoirs publics constitutionnels ne fonctionnent pas? Moi, je suis pas d'accord. L'Assemblée nationale, elle fonctionne. Je dis pas que ce qu'elle vote, j'en suis d'accord avec, hein. Je dis pas que c'est stable, je dis pas que c'est durable, mais fonctionnellement, les députés, ils votent des trucs, genre des motions de censure, ils votent des amendements, enfin je veux dire, ça fonctionne. On peut pas dire qu'on est dans un moment de crise majeure du fonctionnement des institutions. Ça, je suis pas d'accord. Chacun fait son job. Ça veut pas dire qu'on est content du job de chacun. Attention, hein. Le Premier ministre a déposé dans les délais des propositions de loi, des projets de loi de finances, machin et tout. Les députés l'ont amendé, machin et tout. Voilà. Donc, voilà, article 16, j'y crois pas. Ceci étant, j'ai lu un article que j'ai trouvé intéressant où, bon, en ce moment, vous vous en doutez, il y a quand même un paquet de professeurs de droit public qui sont en train de s'arracher les cheveux. Pour lire l'avenir dans des mares de café, j'ai vu un professeur de droit public qui dit que si on arrive à un point de blocage tel qu'au 31 décembre, on n'a toujours pas de budget, qu'il y a une incertitude sur la capacité de la France à payer les salaires des fonctionnaires au 1er janvier, alors on pourrait se retrouver dans une situation où la France n'est pas. Risque de ne plus être en mesure de respecter ses engagements, internationaux notamment. En gros, nos militaires, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Là, on a un problème. Et là, potentiellement, oui, le président de la République pourrait être amené à prendre des décisions d'urgence absolue pour débloquer des crédits pour payer les militaires. On pourrait imaginer qu'effectivement, l'incapacité d'un État à remplir ses engagements internationaux, c'est une crise de type article 16. Il ne Le problème, c'est que, enfin, pareil, dans le cadre de l'article 16, le président de la République, il ne prend pas toutes les mesures qu'il veut. L'article 16 prévoit bien que les mesures que prend le président de la République doivent être. C'est quoi déjà le. C'est très gaullien. En plus, j'aime bien l'article 16 parce que c'est vraiment très, très, très gaullien comme manière d'écrire. Le président de la République prend les mesures exigées par ses circonstances. Ça, c'est typiquement De Gaulle qui dit ça. Il y a des circonstances. Déjà, De Gaulle adorait ce mot. Il y a des circonstances. Elles exigent des mesures. Bah, faut les prendre. Bah, c'est comme ça. C'est la France éternelle. C'est la grandeur. C'est au-dessus. C'est la ménagère. Bah, donc il prend des mesures. Donc il prend les mesures exigées par les circonstances. Il en informe la nation par un message. Ça, il est obligé de venir sur Twitch pour dire aux gens, voilà les décisions que j'ai prises. Après, il y a quand même une précision qui est donnée dans le même article, hein, qui dit que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Et le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Donc voilà, il y a quand même un alinéa dans cet article qui dit qu'attention, les décisions que tu prends, mon coco, c'est pas une réforme de la Sécu. Non, tu prends des décisions qui doivent juste servir à permettre au pouvoir public constitutionnel de fonctionner normalement. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de 1940 et de 1961. Au moment où, enfin voilà, l'Assemblée nationale est en danger. Enfin, tu vois, c'est physiquement, on peut plus aller à l'Assemblée, quoi. Voilà, ben là, il y a un problème. Bon, bah. Qui contrôle le pouvoir en question, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est saisi et qui doit se prononcer obligatoirement. Donc le Conseil constitutionnel peut mettre fin à l'article 16. J'aimerais pas être le Conseil constitutionnel en décembre prochain, si jamais on se retrouve dans une situation comme ça. Peut-être devoir faire une interprétation extensive dans des conditions un peu dégueulasses d'un article dont personne ne veut. Pourquoi Barnier n'a pas engagé le 47-1 pour faire le PLFSS par ordonnance? Parce que les ordonnances, c'est pas magique. Les ordonnances, c'est pas magique. Vous ne pouvez pas déposer des ordonnances et vous sortir du Parlement. Ça marche pas comme ça. Au contraire, les ordonnances, c'est avec autorisation du Parlement et ratification par le Parlement. Donc, le Parlement devra se prononcer d'un moment ou à un autre sur ces hypothétiques ordonnances. Et si Michel Barnier, il anticipe le fait qu'il n'aura pas de vote majoritaire, ce qui est fort probable, et ben il peut pas. Voilà. En plus de ça, le Conseil d'État peut opérer un contrôle juridictionnel concernant les actes de nature réglementaire pris par le président de la République. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, bon, pour le coup, l'article 16 prévoit lui-même un mécanisme de contrôle par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'en parle. Tu ne penses pas que Macron, qui manipule la Constitution en faisant des pirouettes à son avantage, il s'en fout du contexte de l'utilisation de l'article 16? Où est-ce que tu as vu que Macron, il manipulait la Constitution en faisant des pirouettes à son avantage? Macron, il préside la République comme tous ses prédécesseurs. Hein. C'est-à-dire qu'il. C'est pas parce que des décisions ne vous plaisent pas qu'elles sont contraires à la Constitution. La Constitution n'a jamais écrit que les décisions prises devraient vous plaire. Elle a juste dit les modalités dans lesquelles on doit prendre l'institution. On doit prendre les décisions. Voilà. Il y a un paquet de décisions que prennent un paquet de responsables politiques avec lesquels je suis en désaccord fondamental personnel, mais je ne remets pas en cause leur légalité. Oui, non, si, 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 il a le droit. C'est un règlement de merde, mais il a le droit de le prendre, ce règlement. Le pouvoir réglementaire, oui. Full 49-3, merci l'institution. Meilleur exemple, 49-3, meilleur exemple, 49-3. Le 49-3, vous détestez ça aujourd'hui? Je vous donne rendez-vous dans 2 mois quand c'est Lucie Castec qui est Premier ministre. Vous allez adorer le 49-3. Normal, hein? C'est normal. Faudra plus que 2 mois.
Je sais pas.
Ça pourrait venir vite, hein? Ça pourrait venir vite, hein. Il est possible qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet à Matignon en lui disant bon courage. Parce qu'elle va en avoir besoin de courage, hein, vu qu'elle est minoritaire. Elle est encore plus minoritaire que Michel Barnier. Michel Barnier, il a 220 députés qu'il soutiennent. Lucie Castel en a 200. Et encore, c'est vraiment. 200, je suis large, parce qu'en vrai, elle en a 181. En ratissant large. Ouais, voilà, 200 en comptant les copains. Voilà, les copains, il y en a qui sont perdus chez Liotte, il y en a qui. Ah, peut-être quelques-uns du côté de la Macronie qui vont franchir le Rubicon et tout. C'est pour ça que je dis 200 pour. Voilà. Donc l'article 16 est légal, il pourrait l'utiliser, c'est bien ce qu'on dit. Non, parce que l'article 16, il prévoit des conditions. Il ne peut pas être utilisé n'importe comment. C'est pour ça que moi je vous dis que je ne suis pas convaincu que les conditions prévues par l'article 16 soient réunies aujourd'hui. Et à titre personnel, je ne pense pas. On n'est pas dans une situation où les nazis sont à 2 heures de Paris. On n'est pas dans une situation où des généraux avec des chars d'assaut et des avions de combat se rebellent. J'ai juste vu un professeur de droit public qui a estimé que, éventuellement, en étendant vachement l'article 16, on peut estimer que président de la République va décider des crédits, quoi. Ça va. Oh, c'est pas Goebbels, hein. C'est des crédits pour payer les militaires, quoi. Donc j'en sais rien. On verra dans quelle situation on sera. Il peut pas instrumentaliser la menace Poutine pour déclencher l'article 16. Non? Ben non, enfin, d'autant que, pardon, mais il n'a pas besoin. Emmanuel Macron, il est chef des armées. Hein. Si Emmanuel Macron estime que les engagements internationaux de la France sont mis en danger et qu'il doit engager les troupes, il peut prendre la décision. Le Parlement doit se réunir plus tard pour ratifier, mais. Mais non, en l'état actuel des choses, Vladimir Poutine n'empêche pas le Parlement français de travailler. Le Parlement français travaille. Il vote des lois, il vote des amendements, il vote des motions de censure, il vote des. C'est un fonctionnement quelque part assez normal. Macron pourrait démissionner aussi. Emmanuel Macron pourrait présenter sa démission. Effectivement, le chef de l'État pourrait estimer qu'une situation de blocage politique inextricable appellerait à une solution radicale qui consisterait à demander aux Français de se prononcer dans les urnes. C'est un peu ce qu'avait fait Emmanuel Macron avec la dissolution, hein. Si vous regardez Bruno Roger Petit et les conseillers d'Emmanuel Macron, comment ils défendent la dissolution, ils disent, mais en fait, Emmanuel Macron a fait un truc gaulliste. C'est purement gaulliste ce qu'a fait Emmanuel Macron en juin 2023, 2024, pardon. Il a dissous l'Assemblée nationale pour redonner au peuple le droit de choisir. Et le peuple a choisi. Il n'a pas choisi la facilité, mais il a choisi. De Gaulle avait. Il n'y a qu'un seul président de la République qui a démissionné, je vous rappelle, c'est De Gaulle. Il a estimé qu'il avait été désavoué par le suffrage des Français lorsqu'en 1969, il a perdu un référendum. Ça aussi, c'est très gaulliste. De Gaulle et sa manière de voir les choses, le peuple est le roi est le peuple c'est moi, tout ça, tout ça. Il estimait qu'il était investi par la sacralité du suffrage universel direct, ce qui était relativement vrai puisqu'il avait été élu au suffrage universel direct. Et il a proposé un référendum aux Français en 1969. qui était un référendum sur la régionalisation avec une réforme du Sénat. Autant vous dire qu'on s'en branlait pas mal du fond du texte, hein. C'était pas le sujet. Le sujet, il était clair dans la tête de De Gaulle et dans la tête des Français, c'était oui ou non De Gaulle. Tout le monde avait compris. On appelle ça un référendum plébiscitaire. Tu votes pas pour répondre à la question qui est posée, tu votes à la deuxième question qui n'est pas posée, mais qu'on a tous bien compris que c'était ça la vraie question. Oui ou non, on continue avec De Gaulle. Et là, les Français qui venaient de lui donner une large majorité aux législatives, ils ont voté non. Ils ont voté non. Voilà, donc il a démissionné. Bref, vous avez compris. Est-ce que c'est possible un gouvernement PS plus centre avec soutien sans participation de LR et du reste du NFP hors LFI? J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde, mais puisque vous le demandez sous vos yeux ébaudis, nous allons retourner sur le simulateur de coalition. Alors tu m'as dit quoi? Socialiste, Ensemble, Horizon, Modem. Avec soutien sans participation de LR et du reste du NFP? Non. Alors déjà, voilà, on est à 230 députés, donc autant dire qu'on est à peu près au même niveau que Michel Barnier. Et en plus, l'idée que LR et les communistes acceptent de soutenir un gouvernement. Ce site, c'est le meilleur divertissement de 2024. Ouais. Je dois être le seul connard à avoir le simulateur de coalition dans mes favoris. Il faut ressusciter De Gaulle et le mettre Premier ministre. Non, merci. Merci bien, ce sera sans nous. Vois-tu arriver un vote RN de sa propre motion de censure uniquement et donc Barnier resterait? Je sais pas. De Gaulle est mort? Non, 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 De Gaulle est pas mort, De Gaulle est bien vivant dans nos cœurs. Bref, la morale de l'histoire, il n'y en a pas. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Mercredi, vote de la motion de censure. Selon toute vraisemblance, Marine Le Pen devrait voter la motion de censure du NFP, ce qui fera tomber le gouvernement Barnier. Emmanuel Macron se retrouvera à nouveau au centre de la tension et de la tension autour de la composition d'un nouveau gouvernement. Il va être obligé de lancer de nouvelles concertations, discussions, échanges. En vue de composer un nouveau gouvernement, quoi. Avec les apparitions de Dominique de Villepin, est-ce que c'est possible de le voir à Matignon de nouveau dans le futur? Non. Dominique de Villepin n'est actuellement dans aucun mouvement politique, il n'est soutenu par absolument zéro député. Voilà, Dominique de Villepin, sa vie politique est derrière lui. Y a pas. Par ailleurs, je ne vois pas une volonté d'un retour au chiracisme. Dans les urnes, enfin je veux dire, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Dominique Villepin, il était Premier ministre en 2005, hein, je vous rappelle. Enfin, bon, c'était il y a 20 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, le macronisme est né, la France insoumise est née, le Rassemblement national a multiplié par je sais pas combien de milliards son score, est devenu une force centrale, pour ne pas dire la première force politique du pays. Bon, voilà, le monde a changé. Je vois pas pourquoi Dominique de Villepin, non. On est d'accord que l'Assemblée peut censurer le gouvernement spontanément sans 49-3, ce qui se passerait probablement si Macron renomme le même gouvernement. Oui, absolument. Les députés d'opposition ont la possibilité de déposer et de voter des motions de censure hors 49-3. Le problème, c'est que les députés sont limités en nombre de motions de censure qu'ils peuvent signer dans la même année. Donc on ne peut pas en avoir, en fait, pour le dire autrement, on peut pas y en avoir tous les 4 matins des motions de censure. Le gouvernement restera en poste pour les affaires courantes comme Attal. Il y a de fortes chances, oui, il y a de fortes chances. Principe de la continuité de l'État, enfin, on peut pas avoir un pays sans gouvernement, c'est pas possible. Donc on maintient en poste le gouvernement le temps que, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est un gouvernement démonétisé, qui n'a pas les moyens de gouverner, quoi. Refaire une présidentielle? Bah oui, on peut, effectivement. Enfin, on peut. Si Emmanuel Macron estime que c'est lui le blocage qui empêche de trouver une solution, il peut proposer sa démission, ce qui permettra aux Français de voter pour un nouveau ou une nouvelle présidente de la République. Ceci étant, je vous rappelle quand même qu'un nouveau président de la République ne pourrait pas dissoudre avant juin prochain, donc il se retrouverait dans le même problème qu'Emmanuel Macron. Peut-il se représenter à une présidentielle casse-tête de constitutionnaliste? Non. Non. Il n'y a pas de casse-tête de constitutionnaliste. Le président de la République ne peut pas se présenter une deuxième fois à sa succession. Il peut faire que 2 mandats successifs. Il peut laisser passer un mandat et revenir plus tard pour refaire un mandat ou deux, etc. Ça, c'est possible. Mais là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas le droit de se représenter à sa succession. Il y a une légende qui circule sur Internet et qui dit que si le président démissionne, alors ça annule et ça lui permet de se représenter une troisième fois. Non. Voilà. Pour vous répondre, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le truc, en fait, le problème, je vais vous dire d'où vient le problème. Le problème, c'est que une des personnes qui a parlé de ce scénario, c'est pas un blogueur isolé, un peu taré, qui fait des plans sur la comète. C'est Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques Urvoas est un ancien ministre socialiste de la justice. C'est un homme respecté, c'est un homme écouté, objectivement, hein, c'est un mec respecté, qui dit pas des conneries et qui sait de quoi il parle. Et Jean-Jacques Urvoas a écrit, de mémoire, c'était une note de blog, dans laquelle il analysait, il rebondissait sur une jurisprudence du Conseil d'État qui avait autorisé le président de la Polynésie française à se présenter une troisième fois, dans des cas à peu près similaires, dans un cas à peu près similaire. Et Jean-Jacques Urvoas, dans un travail de droit, de réflexion, de doctrine juridique, avait extrapolé en disant on pourrait potentiellement appliquer cette nouvelle vision proposée par le Conseil d'État et l'appliquer au président de la République, qui dès lors pourrait éventuellement se présenter une troisième fois, etc. Et de ce travail de réflexion de Jean-Jacques Urvoas est partie une espèce de légende sur Internet en mode ouais, en fait, finalement, le Conseil d'État dit que le président peut se présenter une troisième fois. Il n'a jamais dit ça, le Conseil d'État. La Polynésie, la France, pas tout à fait pareil, pas les mêmes règles, pas écrit de la même manière, contexte différent. Voilà. Quand on fait du droit, on apprend à faire ce travail intellectuel. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce type d'extrapolation, non. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça s'appelle du droit spéculatif. C'est rigolo en soirée, enfin en soirée, dans mes soirées de juriste à moi. Hein. Parce que du coup, ça permet d'imaginer des trucs, mais dans la vraie vie du monde réel, ça marche pas, ça n'existe pas, ça fonctionne pas comme ça. sympa tes soirées, je peux venir. Non, je te jure que t'en as pas envie. Je te jure que t'en as pas envie. Donc voilà, donc en l'état actuel du droit positif et de la doctrine, virgule, non, le président de la République ne peut pas se présenter une troisième fois pour un mandat de président de la République. S'il démissionne, le cycle de 5 ans commence à partir des prochaines élections. Oui, absolument. Ça va foutre le bordel dans nos têtes, hein. Parce que pour l'instant, on était sur 2-7, tu sais. 2012, 2017, 2022, 2027, 2032, 2037, 2042, 2047. Moi, dans ma tête, c'était bien rangé, ok? J'avais mes présidentielles comme ça. J'arrivais à dormir le soir. Mais là, si Macron démissionne et qu'on fait des présidentielles en 2025, ah bah ce sera mieux. Ça fera 2025, 2030, 2035, 2040, 2045. Ah non, ce serait bien. En vrai, ce serait bien. Non, ce serait bien. Moi, je vote pour une synchronisation du calendrier présidentiel de type naturel. Moi, je vais écrire. Ouais, venez, on fera. À la Constituante, je proposerai un amendement. À la Constituante, je proposerai un amendement pour dire que les présidentielles, c'est les années. Les multiples de 5. Et uniquement les multiples de 5. Non, moi, il y a un truc que je veux mettre dans la Constitution. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aussi le mettre dans la Constitution allemande et tout. Mais moi, je voudrais qu'on synchronise les élections. Entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et tous les pays européens qui le veulent. Et j'ai pas dit qu'on allait faire voter les uns pour les autres. Non, 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 non. Chaque pays reste souverain chez lui. Il n'y a pas de problème. Tu fais ta présidentielle, je fais la mienne. Enfin, chacun de son côté, avec ses candidats, ses partis et tout. Il n'y a pas de problème. Non, non, non. C'est juste que la date du vote est à peu près la même dans tous les pays. Voire même la même dans tous les pays. C'est pas dangereux? Pourquoi ce serait dangereux? Au contraire. Parce que le problème, c'est que t'as des personnes qui sont élues dans un pays et qui ont donc un pouvoir d'initiative important, puisqu'ils viennent d'être élus, et qui se retrouvent à discuter avec un chancelier allemand qui est en fin de mandat, qui peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus de majorité. Et vice-versa. En vrai, ça donnerait une respiration démocratique. Je suis très sérieux, hein. Ça donnerait une respiration démocratique et un rythme à toute l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on serait d'accord et qu'on voterait pour les mêmes personnes. Hein. Tu aurais toujours Meloni, Schulz, etc. Scholz, pardon, etc. Ça ne change pas. Mais au moins, en termes de tempo, pareil pour les assemblées. Oui, c'est pour, enfin, moi, je pense que l'important, ce serait qu'on synchronise les élections générales. Ce qu'on appelle les élections générales, ce sont les élections les plus importantes. Ça va être les législatives, par exemple. En France, on appelle ça les législatives. Mais ouais, tu vois, enfin, je sais pas quoi. En gros, le renouvellement démocratique de nos institutions se fait au même moment. Au Bundestag, à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale française. Voilà. Si le président démissionne, dans ton idée, on fait comment? Vas-y, t'es chiant. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Moi, je donne des idées, là. Et vous posez des questions et tout. Moi, j'étais bien, là. J'étais dans mon truc et tout. Eh ben, on retire le pouvoir de démission du président de la République. Et on lui retire le pouvoir de dissolution. Et en échange, on retire le droit pour le Parlement de censurer le gouvernement. Et s'il meurt? Eh ben, s'il meurt, on fait comme en Corée du Nord, on met son fils. On dit, vas-y, c'est bon, son esprit règne. Ce qui compte, c'est pas le corps. Le corps, c'est bassement matériel. Ce qui compte, c'est l'esprit, c'est l'âme. S'il n'a pas de fils. Bon, mais sa fille, ça va, c'est bon, vous n'allez pas crever parce que c'est une meuf présidente. Oh! Qu'est-ce que tu penses du scénario article 16 de la Constitution? J'en ai longuement parlé tout à l'heure. Je pense qu'à ce stade, il est hautement improbable qu'un article 16 soit utilisé. L'article 16, il sert pas à ça. Il a des conditions quand même assez précises d'utilisation. Et on n'est pas dans une situation article 16. Voilà. En l'état actuel des choses. Ça vient de Gaulle, le fait que les référendums soient transformés en vote pour ou contre le président en exercice. Alors oui, en grande partie. En fait, c'était la pratique gaulliste du référendum. C'était assez assumé pour les gaullistes que dès lors qu'un référendum est proposé par le président de la République, les Français, lorsqu'ils votent oui, renforcent le président de la République. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ça, et c'est le principe qu'on appelle plébiscitaire du référendum. Et il a été pratiqué comme ça à peu près tout le temps. Ça s'est arrêté en 2005 avec le traité sur le, avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, où le président de la République, Jacques Chirac, s'était investi dans la campagne du oui, et c'est le non qu'il a emporté. Jacques Chirac, à l'issue de ce référendum, a décidé de ne pas démissionner, pardon, de son mandat de président de la République, en estimant qu'il fallait décorréler l'objet de la question, qui était le traité constitutionnel européen, et la présidence de la République pour laquelle il avait été élu en 2002. De toutes les manières, en 2005, comment dire, tout le monde savait que l'avenir politique de Jacques Chirac était la retraite. Enfin, on arrivait à la fin de 12 ans. Non, 7 et 5. Si, 12 ans. 12 ans de présidence Chirac. Chirac allait laisser sa place en 2007. Et au final, on est dans l'UE MDR. Alors non, l'Union européenne, on est dedans depuis 1957. Enfin, ça c'était les communautés économiques européennes. On est dans l'Union européenne depuis 1992. 1992, c'est l'année de naissance de l'Union européenne par le traité de Maastricht. Le référendum peut-il tout faire ou est-ce qu'il est restreint par la Constitution? Il est restreint par la Constitution. Le pouvoir de référendum, il y a deux articles dans la Constitution qui prévoient le droit de le référendum, c'est l'article 11 et l'article 89. Et il limite la portée des lois soumises à référendum. Donc ça, c'est le vote des lois. L'article 11, c'est le vote des lois. Les lois, en France, elles sont votées soit par le Parlement, soit par le peuple, par référendum. Voilà. Mais pour que le peuple se prononce par référendum sur une loi, il faut que la loi soit votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc en gros, c'est le Parlement et le peuple. Et l'article 89, c'est les révisions constitutionnelles. Et là, c'est la même chose. L'Assemblée doit voter dans les mêmes termes. N'hésitez pas à acheter la Constitution, hein. C'est un petit livre, vous pouvez le mettre dans les toilettes. Vous pouvez le mettre dans les toilettes, il coûte 4 euros. Et puisque vous êtes à la FNAC, n'hésitez pas à acheter évidemment Les jeunes, c'est le présent. Hein. Le livre de Jean Massier, il est vachement bien. Hop. Mercredi, à quelle heure la censure? Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas quelle va être le calendrier de l'Assemblée nationale sur la censure. Je suppose que ce sera dans l'après-midi, après la séance des questions au gouvernement. C'est toi qui l'as trouvé, le titre de ton livre? Les jeunes, c'est le présent avec l'avenir barré. Ouais, c'est moi qui ai trouvé ce titre. Alors non seulement je l'ai trouvé, mais il y a enfin, quand j'étais militant dans l'associatif, il y a 15 ans, il y a une photo de moi où je suis avec une pancarte sur laquelle il y a écrit ça. C'était un slogan que j'avais écrit il y a 15 ans. J'ai demandé ce petit livre de la Constitution pour Noël, mes parents sont un peu surpris. Énorme. Du coup, c'est fini pour le gouvernement? Très probablement, oui, le gouvernement de Michel Barnier, à mon avis, ils sont en train de faire leur carton là. Je sais même pas s'ils avaient eu le temps de défaire leur carton, hein, parce qu'ils sont arrivés il y a quand même très peu de temps. On est dans une période d'instabilité gouvernementale très forte. Instabilité politique au sens large, hein, parce que c'est aussi le cas pour. C'est aussi le cas pour l'Assemblée. Attends, j'ai réfléchi un truc. Ouais. Mercredi. Alors, mercredi, on va suivre ensemble sur cette chaîne. Abonnez-vous. La motion de censure, évidemment. Hein, le vote. Le débat, puis le vote. Jeudi, on a. Jeudi, on a Baxit. Je vous invite à suivre Baxit jeudi à partir de 19h. Il y aura le retour d'Edoui Plenel, d'ailleurs, qui est de retour de sa tournée de promo. Demain, les questions au gouvernement, ça risque d'être chaud. Et d'ailleurs, demain matin, à 8h, je serai sur Move. Mettez la radio demain matin pour votre réveil, hein. Mettez votre réveil à 8h pour m'écouter sur Move. Ce gouvernement est resté moins de temps qu'il a fallu pour le nommer, non? C'est une bonne question, faut calculer, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On a eu juillet, août, il a été nommé mi-septembre, donc 2 mois et demi. Et il a duré 3 mois. À quelle heure demain sur la radio? 8 heures. Record du Premier ministre le plus court, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais. Ce serait le Premier ministre le plus court de l'histoire de la 5e. Toujours plus long que Liz Truss en Angleterre. C'est pas compliqué hein, de faire plus long que Liz Truss. Hein. C'est plus long que Gabriel Attal ou pas? Ah bah oui, Gabriel Attal, il était de janvier à juin. Enfin non, de janvier à septembre. Donc ouais, non. Non, on est large. Du coup, on reprend Attal? Ouais. Ça se trouve, on va reprendre Attal, hein. Mercredi 15h40, la censure. Ouais, donc c'est après la séance des questions au gouvernement, ça m'étonne pas. Eh bien, chers amis, vous notez dans votre agenda, on se donne rendez-vous mercredi à 15h40. Pour la séance des questions au gouvernement. Non, on se donne rendez-vous à 13h pour la séance des questions au gouvernement. Puis, on suivra ensemble la motion de censure. C'est le programme de notre semaine. Demain, les questions au gouvernement. Demain, les questions au gouvernement. À 14h, faut que je vous fasse une. Faut que je vous fasse une. Bah, je vais faire ça là. Je vais couper mon live. Ouais, faut que j'y aille. Merci les copains d'avoir été là. Très content d'avoir pu discuter avec vous de cette news du jour. Restez connectés sur la chaîne toute la semaine parce qu'il va y en avoir d'autres des news. On va suivre ça en direct. Merci les amis, c'était chouette. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye. Salut tout le monde.